Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, l'affrontement entre le Hongrois Viktor Orban et Volodymyr Zelensky se poursuit et l'Europe s'affaiblit toujours plus. Une page proche-orientale ensuite avec les frappes de riposte de Téhéran sur des installations gazières du Golfe. Et enfin, retour sur le scandale du périscolaire à Paris, une affaire de maltraitance et de viol d'enfants qui éclabousse les socialistes à l'Hôtel de Ville. Pas de pétrole pour la Hongrie, pas d'argent pour l'Ukraine. Voilà la ligne imposée par Viktor Orban aux Européens. Depuis fin janvier, l'Ukraine bloque le pétrole russe destiné à la Hongrie et à la Slovaquie. Et les Hongrois bloquent le prêt de 90 milliards pour l'Ukraine. Nicolas de Lamberterie.
Pas de bras, pas de chocolat. Volodymyr Zelensky est peut-être bien en train de perdre son bras de fer face à Viktor Orban. Le duel n'est certes pas encore terminé, mais une fois n'est pas coutume, l'Union européenne semble se ranger du côté de Budapest et de Bratislava. Le conflit entre l'Ukraine d'une part, la Hongrie et la Slovaquie d'autre part, dure depuis la fin du mois de janvier 2026 et la cessation de la distribution de pétrole brut russe par l'oléoduc Droujba via l'Ukraine. Pour rappel, depuis le début du conflit à grande échelle entre l'Ukraine et la Russie, l'oléoduc Droujba a été mis à l'arrêt plus d'une vingtaine de fois. À chaque fois, la durée des réparations et de l'arrêt n'a pas excédé quelques jours. En clair, à moins que l'oléoduc ne soit donc soudainement frappé en plusieurs dizaines d'endroits à la fois, il n'est donc pas possible qu'il soit à l'arrêt pendant 2 mois sans que cela ne résulte d'une volonté d'une des parties de le voir mis à l'arrêt. Et la proximité des élections législatives hongroises, qui se tiendront le 12 avril, ne semble pas étrangère à ce coup de pression de la part de Kiev, qui verrait bien d'un bon œil une défaite de Viktor Orban. Mais le vieux routier de la politique qu'est Orban n'est pas décidé à se laisser faire, et en retour, il a mis son veto au prêt européen de 90 milliards à l'Ukraine, indispensable d'ici le mois de mai pour empêcher le défaut de paiement de Kiev. D'où l'implication de l'Union européenne pour relancer rapidement l'oléoduc.
Pour Viktor Orban, c'est un énorme succès. Faut bien comprendre que la position de Viktor Orban était décrite comme aberrante, comme dépassée, et l'éviction du pétrole russe comme une nécessité. Ce qui advient avec la Commission européenne et le Conseil de l'UE qui sollicite Zelensky pour réparer l'oléoduc et qui engage donc une participation européenne, des experts et un soutien technique, ça démontre que l'Union européenne, que Bruxelles soutient cette réouverture. Et ça démontre que Viktor Orban n'était pas dans un chantage aberrant, il était dans un rapport de force équilibré. Et ce rapport équilibré, c'est l'énergie n'est pas du domaine de l'idéologie, c'est absolument incontournable. Et le retour de l'énergie russe via l'oléoduc Droujba va permettre à Viktor Orban de témoigner devant son électorat, alors que la campagne électorale bat son plein, que les positions du Fidesz sont équilibrés et obtiennent gain de cause à Bruxelles.
Et même s'il passe souvent pour le vilain petit canard de l'Union européenne, Viktor Orban se fait régulièrement l'écho d'une voix que certains de ses collègues n'osent pas porter. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, dans le contexte de la guerre en Iran, le Premier ministre belge Bart De Wever a appelé à une normalisation des relations euro-russes. Il a notamment déclaré, début de citation, « En privé, les dirigeants européens sont d'accord avec moi, mais personne n'ose le dire à voix haute. Nous devons mettre fin au conflit dans l'intérêt de l'Europe, sans être naïfs à l'égard de Poutine. » Fin de citation.
En fait, Viktor Orban, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que sa position pour que l'énergie russe soit... parviennent jusqu'en Europe, c'est partagé par les industries européennes et c'est partagé maintenant par des chefs d'État, je pense à Bart De Wever, le Premier ministre belge, mais aussi le chef du gouvernement finlandais s'est ouvert dans des entretiens sur la nécessité de dialoguer avec la Russie. Et ce qui vaut pour la question énergétique, vaut plus largement pour la question de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il faut penser une architecture de défense euro-russe dans le long terme, et ne pas penser la Russie comme quelque chose à évincer ou à effacer. Et c'était aussi le cas dans les grands conflits qu'a connus la Hongrie avec l'Union européenne en matière migratoire, puisque l'ouverture des frontières de manière débridée avait été défendu comme la seule solution possible et humaniste défendable. Et maintenant, tout le monde reconnaît que c'est une anarchie migratoire absolument désastreuse pour l'Europe. Donc Viktor Orban, en tenant bon, arrive en fait à constituer un nouveau consensus européen, qui est encore maintenant très timide sur le plan énergétique, mais compte tenu de la guerre dans le golfe Persique et des grandes difficultés de l'économie européenne, il n'est pas à exclure que la coopération énergétique euro-russe ait encore un avenir.
En attendant, les Européens continuent de chercher des solutions puisqu'ils se retrouvent privés d'énergie russe et d'énergie du Proche-Orient. L'Union européenne a dépêché un envoyé spécial au Kazakhstan qui pourrait constituer une alternative. Et au cours du point presse, une information assez ahurissante a été révélée. Depuis 2023, l'Allemagne achète du pétrole au Kazakhstan et ce dernier transite, tenez-vous bien, par le fameux oléoduc Droujba, c'est-à-dire via l'Ukraine et la Russie. Voilà peut-être aussi pourquoi Bruxelles cède aux demandes hongroises de remise en circulation de cet oléoduc, puisqu'il alimente également l'Allemagne en pétrole kazakhstanais. En attendant, l'Ukraine continue de se montrer offensive vis-à-vis des infrastructures énergiques russes. En effet, de la même façon que la Russie a compris qu'elle ne pourra vaincre l'Ukraine sur le terrain que par le biais d'un chaos économique de Kiev et de ses soutiens, Kiev emploie la même stratégie contre Moscou. Et ces derniers jours, ce sont des drones ukrainiens qui ont démoli des infrastructures faisant fonctionner le gazoduc Turkish Stream, qui alimente en gaz naturel la Hongrie via la Turquie, une situation qui a de nouveau fait bondir à Budapest. Une chose semble en tout cas certaine, les Européens en guenille n'en ont vraiment pas fini avec leurs problèmes énergétiques, qui ne font d'ailleurs peut-être que commencer.
Donald Trump a menacé l'Iran après les frappes de Téhéran sur des installations gazières de la région, une riposte aux attaques israéliennes sur celles de l'Iran, non prévues par Washington. Nouveau signe d'un manque de contrôle du conflit, Edouard Chano.
Israël a revendiqué avoir tué hier 18 mars Esmaïl Khatib, ministre du renseignement iranien, au lendemain de la mort d'Ali Larijani et du général Halemza Soleimani. Mais le monde a les yeux rivés sur les cours du gaz qui se sont envolés depuis 24 heures en Europe à plus 35%. Le prix du baril de Brent a quant à lui atteint 113$. Et ce, en raison de frappes israéliennes hier sur les champs gaziers iraniens de South Pars, les premières frappes d'envergure sur la production gazière du pays. Des bombardements qui ont révélé une mésentente entre Tel Aviv et Washington. Dans la nuit, Donald Trump a assuré qu'il ignorait tout de cette opération, tout en menaçant de détruire les réserves de gaz iraniennes.
Israël, sous le coup de la colère en raison des événements survenus au Moyen-Orient, a provoqué une violente attaque contre une installation majeure en Iran, le champ gazier de South Pars. Les États-Unis n'étaient pas au courant de cette attaque. Israël ne mènera plus d'attaque contre ce champ gazier extrêmement important et précieux, à moins que l'Iran ne décide imprudemment d'attaquer une cible innocente, en l'occurrence le Qatar.
Car les représailles iraniennes n'ont pas tardé. L'Iran a frappé dans la foulée des sites gaziers dans les pays du Golfe, provoquant notamment des dommages considérables sur le complexe qatarien de Ras Yaffan. Abu Dhabi a annoncé la fermeture de ces complexes après l'interception de missiles et des raffineries à proximité de Riyad en Arabie Saoudite ont aussi été touchées. Rappelons que des échanges tendus avaient déjà eu lieu entre Israël et les États-Unis le 8 mars dernier après des frappes de Tsahal visant les installations pétrolières iraniennes. L'administration Trump, un peu déjà surprise, avait demandé à son allié d'arrêter. Mais Tel Aviv veut visiblement l'escalade et l'engrenage menace Donald Trump, qui semble dépassé depuis le 28 février, prise au piège de ses propres erreurs et de cette coalition avec Israël. Pendant ce temps, la campagne du tapis de bombes se poursuit néanmoins. L'US Air Force a largué des bombes pénétrantes de 5000 livres anti-bunker sur des sites iraniens le long du détroit d'Ormuz, Washington affirmant vouloir rouvrir ainsi le passage maritime bloqué par l'Iran. Mais les signes d'un affaiblissement iranien n'existent toujours pas. Selon l'analyste Patricia Martins, ce 18 mars sur X, l'Iran tire peu à peu depuis une semaine davantage de missiles et de drones. Les chiffres varient selon les sources, mais la tendance semble claire. Plus inquiétant encore, l'option d'une intervention au sol se rapproche. Selon Reuters, ce 18 mars, citant quatre sources proches des discussions, le renforcement des opérations actuelles par, je cite, des milliers d'hommes est à l'étude. Selon ces sources, ces renforts offriraient plus d'options pour intensifier les opérations, notamment pour sécuriser le détroit d'Ormuz et protéger le trafic pétrolier. Des discussions portent aussi sur un possible déploiement de forces terrestres sur l'île de Karg, principal terminal d'exportation pétrolier iranien, ou pour sécuriser les stocks d'uranium hautement enrichi. Un déploiement le long des côtes iraniennes est aussi envisagé. Des options terrestres particulièrement risquées en raison des capacités iraniennes en missiles et en drones. Aucun déploiement au sol en Iran ne serait imminent néanmoins selon ses sources. Reste que l'USS Tripoli a quitté le Japon et se rapproche du Moyen-Orient, escorté par deux destroyers et avec à son bord 2500 marines. Et Donald Trump a aussi fort à faire sur le front intérieur. Hier, face aux sénateurs, la directrice du renseignement Tulsi Gabbard a admis que l'Iran ne posait pas de menace nucléaire aux États-Unis, rejetant sur le président la décision de l'avoir jugée imminente. Et plus encore, l'ex-dirigeant du contre-terrorisme américain Joe Kent, qui a démissionné il y a 48 heures pour protester contre la guerre en Iran et la pression menée par Israël, a répondu au journaliste Tucker Carlson. Il a estimé que les Israéliens étaient parvenus à faire évoluer les lignes rouges américaines face à la supposée menace nucléaire iranienne.
Je sais comment ça marche. Les responsables israéliens, certains dans le renseignement, d'autres au sein du gouvernement vont voir les responsables du gouvernement américain et leur racontent toutes sortes de choses que nos services de renseignement savent être tout simplement fausses. Ils disent « Je vous donne un aperçu, ce n'est pas encore dans les circuits de renseignement, mais voilà ce qui va se passer ». En général, le discours porte sur une attaque préventive ou sur la construction d'une arme nucléaire. Ils disent que les Iraniens vont procéder à l'enrichissement, quel que soit le pourcentage. L'enrichissement est devenu le discours dominant, ce qui a provoqué un court-circuit et saboté toute la négociation. Ces grands travaux de changement de régime auxquels l'Amérique s'est engagée, Israël ne pourra pas les mener à lui seul. C'est pourquoi nous en revenons au lobby israélien qui est si puissant, si influent et si agressif.
Plus encore, Joe Kent a déclaré durant l'interview avoir reçu l'ordre de mettre un terme à l'enquête menée à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk, soulignant que cette figure conservatrice avait dénoncé lui aussi l'influence d'Israël sur le pouvoir américain. L'ancien membre des forces spéciales appelle Donald Trump à revenir à son principe America First. Le FBI a annoncé dans la nuit qu'une enquête pour divulgation de secrets défense par Joe Kent était en cours depuis plusieurs mois.
Les Parisiens vont-ils reconduire une majorité municipale qui recrute des prédateurs sexuels? C'est ce qui risque de se dérouler alors même que les affaires du périscolaire parisien ont le potentiel d'un scandale à la Bétarame. Explication.
75 agents ont à l'heure actuelle des poursuites pénales pour agressions sexuelles, pour des viols sur des enfants, y compris et massivement à la maternelle. Et là, vous êtes en train de nous faire des leçons?
Insensible et pas gêné, Audrey Pulvar, adjointe d'Anne Hidalgo, a répondu avec dédain mercredi aux accusations du porte-parole de Rachida Dati sur le recrutement par la mairie de Paris de prédateurs sexuels. Selon Sylvain Maillard, 75 des 200 agents recrutés par la ville sont mis en cause. Violence physique, agression sexuelle, viol présumé sur des enfants de 3 ans. 46 animateurs ont été suspendus en 2025, dont 20 pour faits sexuels. S'ajoute à cela une quarantaine de plaintes au parquet et 9 suspensions rien qu'à Saint-Dominique dans le 7e arrondissement. Des collectifs comme SOS Périscolaire alertent depuis des années. Pourtant, la mairie de Paris, sous la houlette d'Anne Hidalgo puis d'Emmanuel Grégoire, a choisi le silence, le déni et la protection des coupables plutôt que celle des enfants. Derrière cette véritable omerta se cache un système opaque et irresponsable. Aucun diplôme n'est exigé, le BAFA est conseillé mais pas imposé et des milliers de vacataires sont payés une misère et recrutés sur le seul critère d'être majeur et sans casier incompatible. Résultat, n'importe qui se retrouve seul avec des petits-enfants malgré une charte que personne ne respecte faute d'effectifs. Quand un animateur est signalé, on le recadre ou on l'exfiltre vers une autre école comme cet individu passé d'un établissement à l'autre avant d'être visé par 3 plaintes pour viol. La mairie parle, elle, de seconde chance. Les autorités ont été alertées dès 2015. Des rapports et des questions ont été soumises au Conseil de Paris sans réponse. Campagne oblige, le socialiste Emmanuel Grégoire se dit aujourd'hui responsable de tout, y compris ce qu'il ne savait pas. Lors d'un débat dans le cadre des élections municipales, Rachida Dati a alerté le public sur cette question.
Il y a des dysfonctionnements dans le périscolaire. Vous avez recruté des animateurs qui commettent de la maltraitance sur les enfants. J'invite les Parisiens à entendre votre réponse. Que vous nous répondez, circulez, il n'y a rien à voir. Effectivement, il y a des agressions sexuelles et des viols dans les écoles, dans le périscolaire. Qu'est-ce que vous répondez ?
Un mépris pour des enfants violés qui se considèrent assez bien venant d'un candidat socialiste dont le saint patron culturel n'est autre que Jacques Lang. En catastrophe, la mairie a publié un plan de lutte en novembre 2025, arrivé 10 ans trop tard, après des dizaines et des dizaines de victimes. Le défenseur des enfants, créé en catastrophe là aussi, a reçu 150 saisines en 2 mois. Il aura donc fallu un enjeu municipal pour que la gauche parisienne s'inquiète du viol d'enfants. Sophia Chikirou, candidate LFI, a elle aussi mis en cause les autorités parisiennes, évoquant une autre affaire dramatique survenue à Paris, concernant toujours le périscolaire.
L'été dernier, au mois d'août, un enfant est mort noyé dans un centre de loisirs. C'est un accident terrible qui est arrivé. L'animatrice qui accompagnait le groupe d'enfants n'avait aucune formation pour des enfants handicapés. Or, elle accompagnait 4 enfants handicapés et c'est un enfant autiste qui est mort noyé dans cette base de loisirs.
Un enfant mort noyé qui intègre le bilan de la mairie socialiste. La légèreté de la mairie de Paris sur un tel drame étonne, tout comme le silence de la majorité médiatique autour d'un scandale pédocriminel d'ampleur, avec 75 des 200 agents recrutés qui sont mis en cause, une affaire qui pourrait dépasser celle de Betarame. Au-delà du bilan financier calamiteux de la mairie socialiste, c'est bel et bien une affaire abominable qui émerge, mais se trouve encore trop peu relayée, mettant en cause les pratiques des équipes Hidalgo et Grégoire. Morcellement des horaires pour faire des économies, recrutement à des salaires indignes, absence de formation exigée. Des enfants parisiens ont été livrés à des prédateurs sexuels par la municipalité et des centaines de milliers d'électeurs ont voté pour cette clique.
Passons à présent à l'actualité en bref en France.
Le monde médical serait-il un peu pourri ? L'inspection générale des finances a sévèrement épinglé le Conseil national de l'ordre des médecins dans un rapport provisoire de janvier 2026, révélé par le Canard enchaîné. Les inspecteurs dénoncent des dysfonctionnements majeurs, avec des notes de taxi jusqu'à 15 000 euros par an pour certains élus, des achats immobiliers luxueux, dont une villa de 1 200 m² avec piscine dans les Alpes-Maritimes, acquise 3,9 millions d'euros pour seulement 7 équivalents temps plein, et un congrès à 1,7 million d'euros. Le budget annuel de 111 millions d'euros, financé à 95% par les cotisations obligatoires des médecins, sert à verser 13,7 millions d'indemnités aux 3 327 conseillers ordinaux. Surtout, l'ordre est accusé d'indulgence coupable face aux plaintes graves, comme dans l'affaire Joël Le Squarnec, ou dans le cas d'un pédiatre condamné pour homicide involontaire en 2025 et toujours inscrit, tandis qu'il se montre strict sur l'homéopathie ou sur des prises de position publiques. On pourrait aussi ajouter les positions très tranchées sur la vaccination. L'inspection générale des finances recommande une refonte totale, regroupement des conseils en une seule entité, ouverture aux représentants des patients, recentrage sur la sécurité des malades et placement sous tutelle du conseil parisien. L'avis par procuration ne fait pas le bonheur. Jeudi, un rapport annuel sur le bonheur a été publié sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. La France passe du 35e au 33e rang. Notons que le rapport avance que l'utilisation intensive des réseaux sociaux nuit au bien-être des jeunes. La proportion de Français utilisateurs des réseaux sociaux est estimée à près de 80% de la population. L'ONU souligne tout de même que les conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux sur le bien-être est complexe. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte, le temps passé sur les plateformes, le type de plateforme, ainsi que la manière dont elle est utilisée. Mickey et Picsou vont-ils disparaître des kiosques ? Disney a décidé de ne pas renouveler sa licence avec Unique Héritage Média, éditeur français du journal de Mickey, de Picsou Magazine, Super Picsou Géant et Disney Princess. Le contrat s'achève fin mars 2027 après un délai de 6 mois arraché par l'éditeur. Ces magazines représentent environ 50% du chiffre d'affaires du groupe, c'est-à-dire 52 millions d'euros, un groupe qui emploie une centaine de personnes. Malgré une hausse de 2% des ventes en 2025 dans un marché papier pourtant en déclin, 48 000 exemplaires pour Mickey, 60 000 exemplaires pour Picsou, Disney met fin à l'accord. Une décision jugée incompréhensible et unilatérale par le dirigeant Emmanuel Mounier. La perte entraînera une restructuration lourde avec la suppression de la moitié des postes, principalement chez les journalistes. Unique Héritage Média, qui avait racheté la licence en 2019 via Disney Hachette Presse,
édite aussi Epsilon et National Geographic France. On ignore encore si Disney confiera ses titres jeunesse à un autre éditeur hexagonal. Qui a le droit de te faire ça? Patrick Bruel est-il rattrapé par les paroles de sa chanson? Jeudi 12 mars, le chanteur a été visé par une plainte pour agression sexuelle et tentative de viol pour des faits commis en novembre 1997 lors d'un festival de cinéma à Acapulco, au Mexique. En septembre 2024, une plainte pour viol a été déposée pour des faits commis en octobre 2012 en marge du festival du film britannique de Dinard. Patrick Bruel nie les faits dont il est accusé.
L'actualité internationale en bref.
Comme un désaccord profond, la directrice du renseignement national américain a formellement contredit le président Donald Trump dans un témoignage écrit précédant une audition au Sénat le 18 mars. Dans cette déclaration, elle affirme que l'Iran n'avait lancé aucun effort pour relancer son programme d'enrichissement nucléaire depuis les frappes américano-israéliennes de juin 2025. Les installations souterraines bombardées ont, selon elle, été scellées, rendant toute reprise impossible à court terme. Trump et Netanyahou, bien sûr, ont justifié l'intervention militaire par une menace nucléaire imminente de Téhéran. Mais dans son discours devant les sénateurs ce 18 mars, Tulsi Gabbard a omis cette phrase précise. Relancée par les sénateurs Mark Warner et John Ossoff, elle a confirmé son évaluation écrite avant d'ajouter qu'il appartenait au président de juger de l'imminence d'une menace. Les élus lui ont ensuite reproché que ceci relevait de sa responsabilité. Mercredi, Joe Kent, un haut responsable américain de la lutte antiterroriste, a démissionné, estimant que l'Iran ne constituait aucune menace immédiate. Ces révélations soulignent des divergences internes au sein de l'administration Trump face au conflit iranien. Taïwan, le renseignement américain, écarte une invasion chinoise en 2027. Selon un rapport annuel des services de renseignement dévoilé mercredi, la Chine privilégierait une stratégie de contrôle sans recours à la force. Les analystes américains estiment qu'aucun calendrier figé n'existe pour une unification forcée, contredisant les hypothèses guerrières évoquées dans les milieux néoconservateurs. Le rapport souligne que les dirigeants chinois considèrent une invasion amphibie comme extrêmement complexe et risquée, surtout en cas d'intervention américaine. Pékin continuera plutôt de chercher à créer les conditions d'un rapprochement sans conflit en 2026. En réaction, la Chine a appelé Washington à abandonner sa mentalité de guerre froide par la voix d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le rapport rappelle que l'unification avec Taïwan est présentée par Pékin comme un objectif incontournable pour 2049, mais que cette échéance lointaine laisse place à une analyse plus nuancée des intentions chinoises. L'Afrique s'humilie. La Confédération africaine de football, la CAF, a retiré mardi son titre de champion d'Afrique 2025 au Sénégal au profit du Maroc sur tapis vert, provoquant un petit séisme. Lors de la finale du 18 janvier à Rabat, les Lions de la Teranga, les Sénégalais, avaient gagné 1-0 après prolongation malgré un pénalty litigieux accordé aux Lions de l'Atlas, les Marocains, dans le temps additionnel. Les Sénégalais avaient brièvement quitté le terrain en signe de protestation avant de revenir. La Fédération royale marocaine a saisi la CAF qui a appliqué les articles 82 et 84 du règlement, forfait pour abandon du terrain, défaite 3-0. Deux mois après les faits, la décision a stupéfié à Dakar. Le gouvernement sénégalais dénonce un scandale et réclame une enquête internationale pour soupçon de corruption au sein de la CAF. La Fédération sénégalaise va saisir le tribunal arbitral du sport. Le Maroc, futur adversaire des Bleus en 2026, se présente désormais comme champion d'Afrique, tandis que le Sénégal argue la primauté du résultat sportif. Une étonnante pratique de plus en plus récurrente au Japon, des femmes bousculées dans les rues par les hommes ou, comme on le voit sur cette vidéo diffusée le 25 février sur Instagram, des enfants bousculés par des femmes. Les Japonais parlent de Butsukari Otoko, littéralement des hommes qui bousculent. Le phénomène inquiète alors qu'il est de plus en plus fréquent dans des centres-villes bondés. Une explication avancée serait qu'il s'agit d'un moyen facile d'évacuer sa pression ou sa frustration dans l'anonymat d'une rue grouillant de monde.
Ce soir, immédiat et demain, dès 7h, un zoom sur l'émission Le Rooftop français. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À vendredi.